première.
Oui.
Oui, oui.
22h, 23h. Par où dire ?
Pascal Tison.
Dis-moi, par où dire ?
Et je fouille encore, parce que ma fonction de secrétaire perpétuel n'est pas du tout en contradiction avec l'exercice d'un métier et d'une science. Donc oui, je fouille, j'ai très longtemps fouillé à la fois en Syrie et en Grèce. Alors malheureusement, évidemment, la Syrie est un chantier qui m'est interdit en raison de la situation, d'autant plus qu'il s'agissait du site archéologique d'Apamé qui se trouve... en bordure de la province d'Idlib et qui est encore aujourd'hui bombardée tout simplement par l'armée syrienne appuyée par les Russes. Donc il est impossible d'y retourner. De surcroît, le site a été particulièrement pillé avec l'aval de l'armée syrienne. Et donc ce sont mes chantiers grecs et plus particulièrement crétois qui m'occupent pour l'instant. Et donc je continue à travailler dans l'extrême est de la Crète sur un site archéologique d'Itanos, qui est une cité grecque qui était aussi une garnison lagide, donc des rois grecs d'Égypte. Voilà, bref. Je continue à passer plusieurs semaines durant l'été à fouiller ce site, avec toute une équipe, bien évidemment.
Académie royale de Belgique, la classe des arts, portrait, par Thierry Genicot. Le monde invisible est soutenu par la Fédération Wallonie-Bruxelles, secteur des arts plastiques. Rythme, répétition, déclinaison.
Répétition, mais juste dans le senti, pas dans le voir. Quelque chose que je vis dans le rapport au toucher. Peut-être une constante dans le travail.
Non seulement j'ai assisté à une classe des plasticiens, mais à chacune de nos réunions de classe réunissent les différentes sections, plutôt les différents secteurs de la classe des arts.
Avec Didier Vivier, Arlette Baumans, Carla Blanche, Daniel Detier, Aïda Kazarian, Jean-Pierre Deleuze, York Matlener et Catherine Leclerc.
La répétition, mais aussi c'est au gré des émotions qu'elle peut naître ou renaître, prendre certains rythmes.
Architecte, philosophe, critique, historien, plasticien ou musicien, dans la perspective de partager des expériences qui ont chacune des points communs, mais qui traditionnellement se déploient dans des secteurs d'activité et d'expression distincts. Ça a été pour moi, comme pour Aïda, un honneur très grand et qui m'a profondément touché que d'être élu à la classe des arts. Tout récemment, moi je suis le gamin de l'équipe puisque j'ai été reçu, je crois, l'année dernière, en juin 2018, si j'ai bon souvenir. Mais c'est une chose à laquelle on ne s'attend pas.
Il y a quelques jours, après avoir vu Jeanne d'Arc au bûcher, à l'opéra.
L'Académie m'apparaissait comme un lieu institutionnel solennel, peut-être un peu traditionnel, en tout cas c'est l'image que me faisait l'Académie. Et très vite, j'ai pu percevoir qu'il n'en était rien, et qu'au contraire, dans le concert de nos institutions aujourd'hui, je pense particulièrement aux institutions universitaires ou aux institutions artistiques, qui sont souvent... comme malgré elle, travaillée par des impératifs de concurrence, de rentabilité, de querelles intestines et institutionnelles qui parfois paralysent et étouffent littéralement la vie des institutions, ici, ce qui paraît être le summum, en quelque sorte, de l'institution et de la tradition, se caractérise au contraire, en tout cas c'est l'expérience que j'en ai, peut-être Aïda également, se caractérise au contraire d'abord par une gratuité au sens le plus profond du terme des travaux que nous menons, et par une ouverture, une fraîcheur, en quelque sorte, que je retrouve parfois avec difficulté dans nos institutions d'enseignement supérieur.
C'était étonnant, comme j'ai été aussi transportée dans l'œuvre, simultanément presque, de James Lee Byers, avec l'exposition « The Death of James Lee Byers », que j'ai vue il n'y a pas longtemps à Venise. Et l'œuvre de Simon Antaï, avec tout le rapport au pliage, mais surtout à la peinture à l'aveugle, c'est-à-dire l'importance de ce qui est caché, de ce qui est enfoui, ce blanc, la toile qu'il froisse, et puis il peint quand elle est froissée, et puis quand il la déploie, alors on a ce rapport à ce non peint, et peut-être à ce silence, peut-être à quelque chose de très profond qui est enfoui.
Avez-vous des souvenirs de l'Expo 58 ?
Absolument.
Cette place de Belgique.
Les Kaliskis.
Mon œuvre.
Allez, ma cinquième.
Une garden party très contemporaine.
Merci d'être là.
Aschenbach, Lino Polegato.
Dans mon histoire de ma peinture.
Aleschinski. Authentique, me tento, me tento, me tento, stélé.
Le monde invisible.
De se comprendre et en se comprenant, d'essayer de progresser. Alors, je crois toujours au progrès, bon, voilà, je ne peux pas m'en détourner, mais je suis persuadé que ce progrès n'est possible que par une compréhension profonde du monde, et l'Académie participe à ce décryptage du monde.
Didier Vivier.
Or, là aussi, c'est un enjeu essentiel de notre société, parce que l'évolution du monde est tellement rapide aujourd'hui qu'elle crée auprès de toute une série de personnes une très grande instabilité, un très grand inconfort. Donc il faut renforcer la compréhension du monde, et non seulement l'évolution se fait de plus en plus rapide, mais elle se fait de plus en plus complexe. Ce qui fait qu'il faut multiplier les approches pour essayer d'avoir une vision relativement fine du monde, parce que si votre vision n'est pas fine et précise, vous ne pourrez pas la faire évoluer à la vitesse d'évolution du monde lui-même. Vous allez en rester à des schémas relativement brutaux, et vous allez voir, l'évolution va se faire dans un angle que vous n'aviez pas repéré. Donc la qualité de l'analyse permet son dynamisme.
Moi, je m'appelle Daniel Detier, je suis effectivement ingénieur civil en architecture et en urbanisme. J'enseigne aussi à l'ULB, mais j'ai mon propre bureau d'études d'architecture et d'urbanisme. J'ai été élu directeur de la classe des arts. J'ai pu un peu m'exprimer lors de la rentrée académique pour expliquer, notamment aux nouveaux académiciens, ce qui me semblait être la motivation et le rôle de l'académie aujourd'hui dans notre monde.
Sous la période des Habsbourg en Belgique, c'était en 1772. Pour être précis, il y avait eu 3 ans avant une première initiative, la création d'une société littéraire de Bruxelles. Portait assez mal son nom parce qu'elle n'était pas uniquement littéraire, elle regroupait à la fois des sciences que l'on qualifierait aujourd'hui d'exactes et des sciences que l'on qualifierait aujourd'hui d'humaines. L'idée était de voir si ça marcherait, si c'était intéressant. Ce fut le cas, et 3 ans plus tard, donc en 1772, Marie-Thérèse, le 16 décembre 1772, décide de signer les lettres patentes qui fondent ce qui va devenir l'Académie royale de Belgique. Évidemment, la Belgique n'existait pas encore, qui comprend à l'époque deux classes, deux groupes. groupe de physique et groupe d'histoire. En gros, les sciences exactes et les sciences humaines. Et déjà à l'époque, et c'est très très intéressant, elles sont contraintes à siéger ensemble. C'est-à-dire que l'idée n'est pas du tout de séparer les sciences. C'est encore aujourd'hui l'esprit de cette académie, et probablement une grande part de son originalité. C'est que les membres travaillent aussi ensemble, à l'intérieur de chaque groupe de sciences, bien sûr. Donc des chimistes travaillent avec des physiciens, des géologues, avec des biologistes, bien, mais aussi au sein de l'académie, qui ne comporte plus comme à sa fondation deux classes, mais quatre classes aujourd'hui. Classe des sciences, élargie à toutes les sciences exactes et naturelles. Classe des lettres, sciences morales et politiques, qui concerne, je dirais globalement, des sciences humaines et sociales, de l'histoire à la littérature, en passant par la géographie, l'économie, le droit.
Moi, je suis un praticien, donc je ne suis pas un chercheur. Je dois construire des immeubles, aménager des espaces publics, et donc je suis confronté toujours à des entrepreneurs, à des constructeurs, à des promoteurs, à des politiciens, etc. Et je me rends compte qu'on a de moins en moins de temps pour réfléchir, pour se poser. L'argent est à la base de tout ce qu'on fait. Il faut être rentable, il faut aller vite, il faut économiser. Les entreprises, c'est la même chose. Il faut construire en essayant de faire des bénéfices ou le moins de pertes possibles. Et donc, aujourd'hui, j'ai l'impression que tout est gouverné par l'argent, par le temps qu'il faut économiser. Voilà. Et ce rapport à l'argent, qui est très discriminatoire dans la société, on voit les écarts qui s'agrandissent très fort. Vous avez d'une part des gens de moins en moins nombreux qui se tracassent comment conserver leur fortune, leur portefeuille, etc., où placer, les intérêts ne sont pas bons, la bourse ne va pas bien. Et à côté de ça, vous avez des gens qui se demandent comment ils vont boucler leur fin de mois. Et il y a vraiment un mouvement sociétal important, on l'a vu avec les gilets jaunes en France, des gens qui réagissent par rapport à une taxe qui pourrait paraître logique parce qu'elle aborde le thème de la durabilité, mais que c'est de nouveau quelque chose qui vient pénaliser des gens et leur outil de travail, alors qu'ils sont déjà dans des difficultés. Cette évolution-là va encore s'amplifier parce que les crises vont toucher d'autres catégories de personnes, et notamment la classe moyenne, et même des professions comme des avocats, des radiologues, des médecins, etc. Pourquoi ? Parce que l'intelligence artificielle est en train de se développer à une vitesse croissante, et que l'hégémonie des États-Unis va, à mon avis, rapidement s'estomper au bénéfice de l'hégémonie de la Chine, qui bénéficie d'une base de données beaucoup plus importante, et ne parlons même pas de l'Europe qui va se faire tout à fait maltraiter. Et donc, on va avoir des rapports de force, on va avoir des professions qui vont se retrouver pratiquement sans emploi, et ça va encore accentuer les problèmes de crise sociétale qu'on connaît aujourd'hui.
Daniel Dottier est ingénieur architecte, c'est le directeur de la classe des arts, intéressé très fort par tout ce qui est développement durable, les espaces publics et les infrastructures culturelles.
Et à côté de ça, il y a la crise climatique, qui va aussi, elle, souffrir de tout ça. Pourquoi ? Parce que on est en train, pour le moment, vous voyez l'économie américaine, dire « bon, ben, il n'y a pas de problème, on continue à polluer, on continue comme si de rien n'était ». Pourquoi ? Bah pour faire de l'argent, pour l'économie de marché. Et qui, de nouveau, va en souffrir ? Ce n'est pas les pays les plus riches, ça va être les pays les plus pauvres, ça va être l'Afrique, ça va être des pays asiatiques, etc. Et qui vont souffrir de tout ça. Alors, dans tout ce contexte aujourd'hui où il semble que tout est manipulé, organisé en fonction de l'argent, l'économie de marché, où les discordances sont de plus en plus importantes. Aujourd'hui, on ne se retourne même plus dans la rue quand il y a quelqu'un qui dort dans la rue chez nous, en Belgique. Il faut aller vite, il faut produire. Dans les bureaux d'études, il faut qu'on boucle la fin du mois, on fait ce qu'on appelle des timesheets, voir combien de temps on a consacré à tel projet, pour voir si on peut se permettre encore de continuer à travailler ou pas, et on doit admettre des solutions, alors qu'on préfère mieux si on y accordait plus de temps, mais il n'y a pas l'argent pour le temps. Enfin bon. Et c'est là que l'académie devient intéressante. C'est là qu'on peut se retrouver dans un monde préservé. On peut se retrouver dans un monde où les rapports sociaux ne sont plus pollués par l'argent. On peut se retrouver aussi avec des gens qui sont des sommités dans leur domaine, puisqu'à l'académie, on ne dit pas « je voudrais être à l'académie pour être à l'académie ». À l'académie, ce sont les membres de l'académie qui proposent des nouveaux membres et vous êtes élu à une large majorité et vous pouvez à ce moment-là devenir membre. Donc, c'est vrai que ce sont des personnes remarquables qui sont à l'académie et je suis très fier d'y appartenir, mais à côté du côté honorifique, je vais dire, que ça représente, je pense qu'on a un rôle essentiel à jouer parce qu'il faut qu'on puisse se mettre à la disposition de la société pour essayer de faire avancer certaines idées. Et l'académie, la caractéristique, c'est qu'elle dispose de plusieurs classes. Il y a la classe des sciences, il y a la classe des lettres, il y a la classe des arts, dont je suis le directeur, il y a la classe technologie et société. Ces différentes personnes, ce qui est intéressant, c'est de pouvoir les faire discourir ensemble, les faire réfléchir ensemble de manière transversale pour essayer d'aborder les différentes facettes du monde qui nous entoure.
Puis la classe des arts, ancienne classe des beaux-arts, et puis, depuis 10 ans maintenant, une nouvelle classe qui est aussi dans son temps, classe technologie et société, qui est une classe d'ingénierie, mais dans son rapport à la société. Donc vous avez à la fois, bien sûr, des ingénieurs, je dirais pur et dur, des informaticiens, mais aussi des économistes, des juristes, des sociologues qui travaillent sur la société, une forme de technologie appliquée à la société. Voilà un petit peu la composition de l'académie d'aujourd'hui, mais qui garde, je le répète, de cette période de fondation, l'envie de croiser les disciplines. Et c'est très large. Parce que finalement, vous allez à la fois des artistes aux chefs d'entreprise. Dans la classe technologie et société, il y a des chefs d'entreprise. C'est rare, d'une certaine manière, les milieux qui sont encore aujourd'hui capables de mobiliser des compétences à ce point-là différentes. Or, sur tous les grands problèmes de la société, on ne peut que travailler en multipliant les approches. Que vous preniez tous les grands sujets de société, il faut travailler ensemble. Et les artistes ont leur part là-dedans, extrêmement importante, de créativité, d'originalité. Et je crois que c'est très important de redire que ce n'est pas parce que on est vénérable au sens étymologique, c'est-à-dire qu'on a un certain âge, que pour autant on est dépassé ou vieillot. Au contraire, il y avait une extraordinaire modernité à la fin du XVIIIe siècle qui obligeait la création de cette académie. Je rappelle quand même que c'est la première et la seule académie des sciences de tout l'empire des Habsbourg. Il y avait une académie des arts qui était à Vienne, mais en termes de sciences, à l'exception peut-être des quelques académies dans le nord de l'Italie, parce que l'Italie avait une plus ancienne tradition, mais c'est une nouveauté pour l'Empire des Habsbourg quand, en 1772, on crée l'académie à Bruxelles. Les Français l'avaient fait, les Anglais l'avaient fait, et évidemment, le pouvoir des Habsbourg se rendait compte de l'extraordinaire efficacité de cette académie, qui, à l'époque, régénérait les sciences. Pourquoi ? Parce que les académies ont beaucoup fait. Et ce fut le cas aussi à l'Académie de Berlin, qui, je le rappelle, a été présidée, premier secrétaire perpétuel de l'Académie de Berlin, c'est Leibniz. Or, Leibniz, c'est l'idée que la théorie s'exprime dans une application. Le rapport entre théorie et pratique, c'est un petit peu l'idée des académies que de sortir d'une science pure, éthérée, théorique, et de la mettre au service de la société. Les historiens savent très très bien aujourd'hui qu'une bonne partie de la révolution industrielle, par exemple, tire son origine de cette open science, si vous voulez, avant l'open science d'aujourd'hui, mais dès le XVIIIe siècle, même le XVIIe, on a cette préparation d'une science ouverte, qui se discute ouvertement. et qui n'est plus confiné dans des milieux universitaires, presque monastiques, où le savoir est un secret d'alcôve.
D'échanger, de dégager des perspectives sociétales plus larges, plus prometteuses, visionnaires, voire utopistes. Donc de prendre de la hauteur pour le faire. On n'est plus le nez dans le guidon. On peut essayer de s'extraire un peu de cela. Alors ça, c'est un peu la responsabilité, évidemment, des académiciens. Certains académiciens estiment que le fait d'être nommé à l'académie suffit. Et puis, ils y viennent ou n'y viennent pas. Mais je trouve qu'à partir du moment où on est académicien, on a un rôle à jouer à l'académie. Et on est là aussi pour aider. On n'a pas toujours l'occasion de le faire de manière isolée, dans son coin, avec les contraintes qui sont liées à chacun à sa profession. Mais à l'académie, on peut prendre le temps, une demi-journée, une journée par mois, voire deux journées par mois, de réfléchir avec d'autres sur la manière de faire.
Académie royale de Belgique. La classe des arts.
La classe des arts, par exemple, est une classe très intéressante, parce qu'il est évident que ce ne sont pas des technocrates qui vont sortir la société d'où elle est, mais je pense que c'est plutôt des humanistes, des gens qui vont réfléchir. Des artistes qui sont sensibles, qui font des créations. Ces créations permettent des lectures multiples. Et donc, c'est une lecture multiple qu'on peut avoir de leurs œuvres, permettent aussi des réflexions. Et surtout, lorsqu'elles sont partagées, permettent alors d'aboutir vers des directions, de se donner des objectifs. Et c'est pour ça que lorsque nous avons fait la rentrée académique, nous avons tenu à honorer Ai Weiwei, qui a reçu le prix de l'académie. Parce que c'est un artiste qui, effectivement, s'implique excessivement dans la société, qui a des prises de position assez fermes, et qui avait dit, par exemple, dans un article qu'il avait donné au Monde en septembre 2015, « Dans l'inconscience générale, l'artiste doit être conscient. » Et je pense qu'effectivement, aujourd'hui, pour avoir cette forme de conscience, il faut presque être un peu en dehors, un peu à l'extérieur, pour se rendre compte de la folie dans laquelle on est, et se rendre compte qu'en fait, c'est pas ceux qu'on croit qui sont des artistes et qui sont des fous, qu'ils le sont réellement. Mais au contraire, c'est ceux qui ne s'en rendent pas compte et qui sont là. Et ça, c'est le rôle de l'académie, je pense.
Didier Vivier,
secrétaire perpétuel de l'académie.
Il y a la nécessité d'avoir accès à un monde sensible. Et les arts sont l'une de ces clés d'accès à une facette du monde qu'il ne faut absolument pas éviter ou oublier ou cacher ou que sais-je.
Pourquoi dit-on perpétuel ?
Je pense que c'est historique.
De l'apport essentiel des artistes à la position d'un problème.
Et les secrétaires perpétuels ne sont pas perpétuels perpétuellement, ils deviennent honoraires. Il y en a plusieurs, Léon Ouzio et Hervé Asquin par exemple.
Oui, et je crois savoir que James Lee Bayer s'est enterré près des pyramides en Égypte.
Oui, je pense aussi. Je ne suis jamais allée sur sa tombe.
Un artiste de la performance.
Oui, ça résiste après lui.
Catherine Leclerc, vous êtes ?
Je suis secrétaire adjointe de la classe des arts.
Catherine Leclerc, la secrétaire de la classe des arts, nous a prévenu gentiment des thématiques que vous vouliez développer dans votre émission.
Jean-Pierre Deleuze, musicien, il est également le vice-directeur de la classe actuellement. C'est un compositeur.
Je suis élu dans la classe des arts depuis une dizaine d'années, je n'ai pas la date en tête, dans l'orientation musique. Qu'est-ce que cela implique ? Bon, tout d'abord, c'est un honneur qu'on reçoit de la part de ses pairs. Donc je crois qu'on a des devoirs. Et le premier devoir, c'est d'assister autant que possible, aussi régulièrement que possible, aux séances de la classe des arts, qui sont mensuelles, de prendre part aux débats, aux discussions, aux échanges qui s'y déroulent.
C'est quelque chose aussi, ça, qui est important dans les artistes de la performance, J'ai eu le même sentiment, même si ce n'est pas le même registre tout à fait. Yannis Kounelis, qui est un artiste de l'Arte Povera, mais qui est décédé aussi maintenant, et qui a fait beaucoup de performances. J'ai aussi vu récemment une
Aida Kazarian
rétrospective à Venise, et elle reste extrêmement forte et très touchante, malgré la disparition de Yannis Kounelis.
Pour les musiciens, comme pour tous les artistes, et aussi pour les historiens de l'art, il y a des concours. Donc nous avons la responsabilité d'organiser ces concours et de participer au jury. Parmi les devoirs, un des plus généraux, des plus importants. Et actuellement, je participe aussi à l'organisation des concerts de l'ASBL, des concerts de l'Académie royale de Belgique. Ces concerts ont été initiés par Jacques Leduc, un membre regretté de notre classe, qui fut d'ailleurs mon professeur au Conservatoire royal de Bruxelles.
Mais Jean-Pierre Deleuze, pour qui nous écoute, que signifie le contenu d'une classe? De quoi parle-t-on?
C'est un lieu très étrange, la classe des arts. C'est un lieu unique où des artistes d'orientation tout à fait différentes, des plasticiens, des musiciens, des architectes, des sculpteurs, des plasticiens, etc., se trouvent régulièrement ensemble alors que ça ne se fait pas ailleurs. Bien sûr, ils peuvent se réunir, mais ce sont des démarches individuelles. Ici, c'est une démarche qui est historique, depuis la fondation de la classe des arts. Il y a aussi, bien sûr, les historiens de l'art qui s'occupent du patrimoine et qui ont un regard sur notre travail. C'est vrai que s'ils sont historiens, généralement leur travail est plutôt centré sur le passé, mais ces rencontres, je trouve, sont très fructueuses.
C'est quelqu'un qui a une vie intérieure extrêmement riche, et je pense que ça se marque très fort dans ses compositions.
Jean-Pierre Deleuze, vous parlez dans la classe, vous écoutez.
Je crois que le plus important pour commencer, c'est d'écouter ce qui se passe, parce qu'on a beaucoup à recevoir, et pour que notre prise de parole soit pertinente, c'est important de pouvoir écouter et de comprendre dans quel contexte on est, quelle place on peut prendre.
On essaye de comprendre le monde dans lequel on vit. On essaye de se comprendre soi-même. Et c'est une des capacités humaines et un des intérêts, évidemment, de l'humanité. C'est de se comprendre et, en se comprenant, d'essayer de progresser. Voilà.
Il faut une disponibilité.
Je pense également pouvoir dire que Jean-Pierre Deleuze est quelqu'un de profondément intéressé aussi par les haïkus et par la culture orientale, et japonaise en particulier.
Je me souviens tout particulièrement d'une communication que j'ai faite avec Bob Verschuren, artiste plasticien, qui était à l'époque directeur de la classe et qui m'a invité lors de la séance publique de la classe des arts à une présentation en duo. D'habitude, c'est le directeur qui fait un discours. Et nous avons essayé d'établir un parallèle assez intime entre nos œuvres en développant différents aspects d'une façon constructive et poétique à la fois. Voilà, c'était quelque chose d'assez surprenant. J'en garde un très beau souvenir et je crois que ça a été placé en vidéo dans les archives de l'Académie. Donc c'est visible.
Et si lui est un artiste de la nature, vous?
Moi aussi. Je ne m'attendais pas à cette question, mais cette question me fait plaisir parce que mon travail d'écriture musicale veut aller à l'encontre de l'autre, et cet autre a été tout particulièrement la culture japonaise.
Et l'Académie participe à ce décryptage du monde. l'évolution du monde est tellement rapide aujourd'hui qu'elle crée auprès de toute une série de personnes une très grande instabilité, un très grand inconfort.
Arlette Baumans, vous qui êtes architecte, la question de la nature, du Japon, de l'Haïku et de Kyoto vous intéresse-t-elle ?
De Kyoto et de Katsura, cette fameuse villa que les architectes modernistes, type Bruno Toth, allaient voir. Mais bien sûr que la nature, le paysage sont les fondements, je pense, de l'architecture et de l'urbanisme. Tout notre travail avec mon associé Bernard Defay consiste à lentement transformer ces paysages construits et non construits. Et si possible, dans la plus grande humilité, pour que les transformations ne se voient pas. Comme dans le paysage, je dois peut-être faire une petite parenthèse, je suis une marcheuse, et donc on ne voit pas les limites d'une région. Le paysage se transforme lentement. Et je pense qu'il nous donne des grandes leçons de culture architecturale et urbanistique.
Arlette Baumans, architecte.
Je pourrais aussi profiter de cette question-là qui montre comment la modernité et la réflexion sur le langage des formes est peut-être bien antérieure à celle qu'on nous apprend dans les écoles, mais à la classe des arts, ce que j'ai compris, pour revenir à cette classe des arts, j'ai Jean-Pierre Deleuze devant moi et je sais que plusieurs artistes vont chercher dans des domaines qui leur sont propres, mais comme nous, architectes et urbanistes, on va chercher dans le vernaculaire, on va chercher donc de l'architecture vernaculaire, dans la tradition classique et dans la tradition moderniste, les éléments de notre travail d'aujourd'hui. Et en fait, on va revenir à la classe des arts peut-être, même si je suis l'aînée de Jean-Pierre, qui est devant moi là. Jean-Pierre est depuis une dizaine d'années, moi je suis nommée depuis peu de temps, depuis 2 ans, et je me suis donnée comme devoir, parce que ça je crois qu'on a un devoir et une responsabilité, d'assister à quasi toutes les classes, et d'essayer de tisser les liens entre les différentes disciplines de la classe des arts. Et en fait, le fait de remonter à des moments clés du langage, des formes, soit picturales, soit musicales, ça je crois que ce sont des points communs qu'on pourrait peut-être étudier plus profondément.
Didier Vivier, ce que vous venez de décrire là de l'Académie se différencie par la force des choses du monde universitaire.
À plus d'un titre. Tout d'abord parce que, pour avoir dirigé une université, j'en sais les difficultés, les universités fonctionnent encore, je dirais, en silos disciplinaires. C'est-à-dire qu'il y a des facultés.
Puisqu'on travaille beaucoup sur l'espace public, sur l'espace de tous les possibles, de tous les bonheurs, mais aussi de tous les conflits, et cet espace de liberté, sa manière de définir la démocratie, je trouvais ça mais vraiment magnifique. Donc, on parlait de la classe des arts, mais les autres classes, je pense que Jean-Pierre ne me contredira pas, ont tellement de choses à nous apporter.
Arlette Baumans, architecte, elle fait évidemment partie de l'orientation architecture. Architecte et urbaniste, Arlette Baumans a été professeure et elle co-dirige maintenant le bureau d'études Baumans et Defay.
Il est quand même relativement difficile de faire cohabiter, discuter des disciplines, au moins des disciplines relativement éloignées, comme je sais pas la biologie et l'histoire, ou l'intelligence artificielle et même la philosophie, alors qu'il y a des nécessités absolument évidentes. Mais c'est difficile. Pourquoi ? Parce que le monde académique, le monde de l'université, est une carrière. Et que donc elle doit répondre à des critères de la carrière, des critères de compétitivité, de concurrence parfois. C'est-à-dire que les chercheurs sont sous pression, et c'est bien d'ailleurs une des grandes difficultés, sont sous pression de la publication, de l'excellente publication. Il ne suffit pas de publier, il faut encore publier dans des revues extrêmement prestigieuses, etc. Et Si vous voulez, pour réussir aujourd'hui une très bonne carrière, au moins dans les premières années, il vaut mieux être l'ultra spécialiste d'un tout petit domaine que d'essayer de se frotter à une énorme question. Hein? Bon.
Arlette Baumans a également, je pense, beaucoup travaillé à la réaffectation d'un certain nombre de sites, et notamment Interlaken à Dison.
Une autre classe publique, c'était Christian van der Morten et Philippe van Parijs qui parlaient de l'Europe et des crises de l'Europe économique, mais aussi environnementale. Et ils montraient, mais de manière claire, pour nous, architectes et urbanistes, comment le populisme montant allait vers une Europe de l'inertie, une Europe musée. On allait faire Venise est beau, mais si toute l'Europe devient Venise, ça serait une catastrophe.
La qualité de l'analyse permet son dynamisme.
Il y a une série d'événements qui m'ont profondément marqué. C'est la mutation du monde agricole. Mon papa, qui était paysan dans les années 60, me disait « Arlette, mais c'est criminel, ils enlèvent les haies et ils payent pour enlever les haies et les arbres fruitiers. Je ne le verrai pas, me disait-il, mais tu verras. » C'est une opération qui ne veut rien dire. Et la mutation du monde agricole, donc on a enlevé les haies pour créer des grands espaces. Raymond Depardon l'a bien montré en France. Jean-Jacques Andriel l'a montré aussi dans ses films. Mais la mutation agricole, c'est tout le problème des agriculteurs donc, dans nos régions, donc dans le pays de Herve. Et une autre mutation, c'est la mutation du monde industriel. Donc, Pays d'Herve, c'est aussi Verviers, où je fais mes humanités. Et là, on a une ville qui est une ville monde, où quand on fait le tour des boutiques, on ne sait rien s'acheter parce que tout est trop cher. En quelques années, l'industrie lainière à Verviers, l'industrie métallurgique dans la vallée de la Meuse, tout disparaît et il faut passer d'une société industrielle à une société post-industrielle. Je pourrais dire que c'est peut-être notre chance au bureau Baumans de fait, car sur cette base-là, on travaille dans la transformation perpétuelle et toujours dans comment on prépare la prochaine transformation. Ce sont les bases du travail. Et donc dans une forme de résilience et dans des mises en forme de résilience aussi.
Carla Vlanche, qu'avez-vous appris en assistant à une classe, chose à laquelle vous attendiez pas du tout?
Peut-être que c'est quelque chose, sinon à quoi je ne m'attendais pas, en tout cas que j'espérais. C'est la possibilité d'un dialogue rare, d'un partage d'expériences entre divers modes d'expression. Vous le savez, le domaine des arts et le domaine des sciences est traditionnellement distinct, séparé par une frontière parfois difficilement franchissable. C'est le privilège que nous avons au sein de la classe des arts, c'est de rendre cette frontière poreuse, en quelque sorte. Et quelque chose qui nous importe beaucoup, c'est le partage d'expériences, le partage de modalités d'expression qui paraissent distinctes, mais qui ne le sont pas nécessairement. Au fond, toute forme de création artistique repose sur une recherche. La recherche n'est évidemment pas, et de loin, le privilège des universitaires. Un travail d'artiste répond à un protocole de recherche et d'enquête, répond à la dimension d'une entreprise toujours plus ou moins collective, même si elle est le fait d'une seule personne. Là, nous rejoignons une poétique de la recherche, dirais-je, d'un seul mot, une poétique de la recherche qui nous intéresse autant que nous soyons universitaires ou artistes. C'est-à-dire que la classe des arts permet, je crois, de rompre quelques lances.
En revanche, l'Académie est loin d'une certaine manière de ces enjeux-là, parce qu'il n'y a pas de carrière à l'Académie. On est élu à l'Académie, et puis on rentre à l'Académie, et puis voilà, il n'y a pas, je dirais pas, d'enjeu majeur. L'enjeu, c'est de construire. de discuter, d'échanger, de réfléchir, de s'enrichir.
À propos d'un partage, ce partage entre art et science, où prétendument on assignerait aux artistes le soin d'être des praticiens et aux universitaires celui d'être des théoriciens. Ceci ne correspond mais pas du tout aux modalités vraies de nos modes d'expression qui ne sont pas toujours aussi distincts qu'on voudrait le croire ou parfois nous le faire croire.
Carla Blanche.
Carl est historien, il fait partie donc de l'orientation histoire de l'art, théorie et critique de la classe. Il est spécialiste de l'histoire culturelle du regard. C'était, je pense, sa thèse de doctorat et il est très intéressé par les arts situés.
À ne pas répondre à une tendance un peu naturelle qui serait la clôture de chaque section, de chaque discipline sur ses propres intérêts, sur ses propres sensibilités. Et ce que nous essayons dans la programmation, notamment des exposés qui se tiennent à la classe des arts ou d'autres initiatives que nous prenons, c'est précisément de prendre le risque d'un partage d'expériences et d'un échange vrai. Ainsi, par exemple, au mois de janvier prochain, nous avons décidé avec Bob Verskuren de proposer une intervention commune, une sorte de dialogue ou de pas chorégraphique autour de la question du paysage.
Ou de performance,
on verra, on doit la préparer encore, mais c'est quelque chose dont je me réjouis beaucoup, d'abord parce que j'admire beaucoup Bob Verskuren, et parce que ça nous met au défi de penser et de faire ensemble.
Mais effectivement, on est là, je dirais, dans un rythme différent, qui me semble être une respiration absolument indispensable dans le monde d'aujourd'hui. Parce que sinon, on court à l'extrême marchandisation, d'une certaine manière, du savoir. Ce qui ne doit surtout pas être opposé à l'efficacité.
À vous écouter, Didier Vivier, vous me faites penser à ce qu'aurait été l'encyclopédie de D'Alembert, Diderot, aujourd'hui.
Oui, parce qu'il y a effectivement dans les académies un esprit 18e, indéniablement, qui est à la fois aujourd'hui en crise. Il ne faut pas nier ça. Il y a une crise du modernisme d'une certaine manière, et le postmodernisme remet tout ça. Il y a un certain nombre de valeurs ou de principes qui remontent au XVIIIe siècle et à l'ambiance du XVIIIe siècle et qui aujourd'hui sont remis en cause. Et l'Académie, effectivement, se situe dans cette tradition. Ça ne veut pas dire qu'elle en est restée au XVIIIe siècle. Ça veut dire qu'elle a évidemment évolué avec la société, mais elle a un vrai rôle à jouer. Et notamment, c'est aussi une donnée du XVIIIe siècle, dans le conseil scientifique au pouvoir public.
Mais j'ai commencé très figuratif, si vous voulez. J'étais 4 mois élève privé de Otto Dix en Allemagne, où j'ai encore vraiment travaillé la manière dont Dix faisait ses portraits. Et j'ai aussi appris de l'ancienne technique qui est la tempérée à l'œuf.
Donc il faut renforcer la compréhension du monde. Et non seulement l'évolution se fait de plus en plus rapide, mais elle se fait de plus en plus complexe. Ce qui fait qu'il faut multiplier les approches pour essayer d'avoir une vision relativement fine du monde. Parce que si votre vision n'est pas fine et précise, vous ne pourrez pas la faire évoluer à la vitesse d'évolution du monde lui-même. Vous allez en rester à des schémas relativement brutaux. Et vous allez voir, l'évolution va se faire dans un angle que vous n'aviez pas repéré.
J'ai travaillé toujours par thème. Le premier thème que je montrais à la Biennale de Venise, c'était la mort à Venise de Thomas Mann et de Luchino Visconti. Donc j'étais souvent influencé par des œuvres d'autres artistes. J'ai en tout fait 32 portraits de Gustav Mahler qui seront visibles l'année prochaine à Amsterdam durant le Festival Mahler, sous forme de film. Mais ces 32 portraits de Mahler ont parcours des vocabulaires très différents, qui vont de la figuration presque photographique jusqu'à l'abstraction. Et j'ai fait ça sur 20 ans, de 1984 à 2004.
Oui, je voulais sans doute répondre à Arlette en racontant une expérience vécue lors d'une de nos séances, et ça se passait alors qu'elle venait de rentrer dans notre classe.
Aujourd'hui, beaucoup de gens sont désemparés par l'évolution de la société, ils ne comprennent plus le monde. Hein. Donc il y a une grande nécessité à l'expliquer.
J'étais assez étonné en Allemagne, je suis un ex-allemand, je suis devenu belge en 1963. Parce que j'ai refusé le service militaire en Allemagne. Je trouve incroyable que l'Allemagne, après avoir déclenché deux guerres mondiales, a de nouveau des nazis et des mouvements d'extrême droite. Ce que je trouve incompréhensible, de toute manière inacceptable et angoissant. J'ai l'impression que, étant donné que j'ai étudié avec la fameuse école de Francfort de philosophie et de sociologie avec Adorno et Horkheimer et Benjamin, qui ont essayé de produire une théorie qui fasse que plus jamais ce qui s'est passé en Allemagne entre 1933 et 1945 se produise de nouveau, mais finalement même cette éducation ou cette formation philosophique en quoi consistait le fascisme. Ou bien les gens ne l'ont pas reçu, ne l'ont pas compris, ou bien s'en foutent pas mal. Et quand c'est une solution facile de nouveau pour résoudre les problèmes qui sont tout à fait ailleurs que dans la production des armes ou le commerce mondial, ce sont des problèmes beaucoup plus profonde et qu'on ne parvient pas à résoudre.
J'ai pu croiser l'artiste Jörg Madlener qui me dit exposer dans les locaux de l'Académie.
Effectivement, Jörg Madlener a eu une exposition d'une semaine dans les écuries royales de l'Académie. Jörg Madlener est un membre associé émérite de la classe des arts.
L'exposition a montré que, en fait, une œuvre finie est encore un essai. C'est toujours quelque chose qui pourrait encore avoir une ajoute ou un changement, ce qui rend peut-être aujourd'hui l'art de performance un des plus intéressants. Ou bien je crois que pour moi, la performance acoustique par un orchestre, même aidée par des ordinateurs, pourquoi pas. Ou bien je pense aussi que le théâtre va avoir une renaissance.
Le fil des discussions m'a amené à expliquer comment la création d'une œuvre musicale était conduite dans mon esprit depuis les prémices jusqu'à l'écriture des notes. Et je croyais que c'était quelque chose de complètement inintéressant et pour les non-musiciens. Et j'ai vu dans l'œil d'Arlette un éclat, et immédiatement elle a fait une correspondance avec son propre travail de créativité en tant qu'architecte. Et alors, suite à ça, je me disais, tiens, c'est vrai qu'en tant que compositeur, pendant notre travail, on est très isolé, puisqu'on passe beaucoup de temps seul à la maison, avant de rentrer les musiciens, puis un public restreint qui écoute de la musique contemporaine. Eh bien, je me disais, tiens, c'est vrai, en allant dans la classe des arts, notre horizon, nos perspectives, c'est un terme qui est utilisé plutôt en art plastique qu'en architecture, mais nos perspectives sont tout à fait élargies. Et là, il y a un enrichissement et un soutien, finalement, considérable qui est apporté.
Et dans cette explication, je reviens à votre question, la place des arts est absolument essentielle.
Aïda Kazarian, comment s'est passée votre entrée dans ces murs, dans l'Académie? Racontez-nous le moment où on vous a appelé.
C'était un grand étonnement pour moi d'avoir été contactée et d'avoir été approchée. Je suis un peu gênée de dire ça maintenant, mais je ne connaissais pas du tout l'existence de l'Académie royale de Belgique.
Académie royale de Belgique, la classe des arts.
J'étais particulièrement touchée que quelques artistes dont je connaissais le travail, mais je ne savais pas du tout qu'ils faisaient partie de la classe des arts, que ce soit Jacques Charlier, André Lambotte, Léon Huidard. J'étais vraiment très touchée de l'estime et de la confiance qu'ils me faisaient en me sollicitant. Je n'ai pas répondu tout de suite, j'ai attendu un tout petit peu et puis voilà.
Aïda est une plasticienne. Elle fait partie de l'orientation art plastique de la classe. Il y a 4 orientations, art plastique, architecture, musique, histoire de l'art et théorie et critique.
Mais je pense, Aïda Kazarian, à la rencontre que j'ai faite avec James Lee Byers et à sa recherche du parfait.
Oui, d'absolu. Oui. En fait, il y avait cette pièce qui a été montrée à Bruxelles chez Marie-Puck Protarts, si je ne me trompe, près du Palais des Beaux-Arts en tout cas, où il était encore vivant et c'était un moment où il était très malade. Et ce rapport au corps était extrêmement impressionnant parce que là, il s'était couché complètement dans tout l'espace de la galerie au sol. Et il avait juste le chapeau, les mains et les chaussures noires. Et il avait mis à toutes ses extrémités, donc à ses deux pieds, à ses deux mains, des pierres qui donnent l'impression de brillants.
Avec Didier Vivier, Arlette Baumans, Carla Blanche, Daniel Dethier, Aïda Kazarian, Jean-Pierre Deleuze, Jörg Madlener et Catherine Leclerc. Académie royale de Belgique, la classe des arts. Par Thierry Chenicaud. Musique. Jean-Pierre Deleuze, Voici l'absence. 5 déplorations en antiphonie.